Hermine Gilquin, troisième partie. Chapitre 28. Ce jour-là, Hermine avait fui sous le point levé de François Jarry, et elle était restée dehors toute la nuit. C'était une courte nuit d'été bleue et claire. Hermine s'assit, comme elle l'avait fait souvent, contre une meule, au milieu d'un champ fauché. Après avoir regardé les dernières étoiles scintillantes, elle sentit au matin ses paupières s'appesantirent malgré elle. Son cœur angoissé commençait à se calmer sous l'effet du bienfaisant sommeil, quand elle entendit un froissement du foin, comme d'une bête massive qui remuerait, puis une voix rauque qui articulait des mots incohérents. Hermine n'avait plus peur de grand-chose maintenant. Et puis le jour venait, le jour pâle du matin, encore frissonnant de l'air de la nuit. Pourtant, elle craignit un bestial cheminot, et doucement elle se levait pour partir lorsqu'elle aperçut, émergeant de la paille, la tête hagarde de l'affreuse pauvresse. « C'est vous ? » dit-elle en hésitant, s'arrêtant de prononcer le surnom de la fille. « Oui, c'est moi, Katsu. Oh, vous pouvez m'appeler par mon nom. Et c'est vous, madame Hermine ? « Vous n'êtes pas plus heureuse que moi, à ce que je vois. » Elle rit sans méchanceté, et Hermine rougit tout en répondant « Vous auriez pu être plus heureuse que moi, vous, si vous l'aviez voulu. Vous n'aviez qu'à travailler. »« Il n'y a pas de travail pour des saletés comme moi. Oh, Léa qui me repoussera du pied. »« Vous en trouveriez du travail, si vous vous teniez proprement, et si vous ne couriez pas ainsi au hasard. » Je n'aime pas travailler tous les jours. Les bêtes ne travaillent pas. Je suis une bête des bois. » Hermine, malgré son chagrin, ou peut-être à cause de son chagrin, était attirée par cet être tombé au plus bas. Les réponses qu'elle recevait l'étonnaient, et le besoin d'affection qu'elle avait en elle était toujours si grand qu'elle cherchait encore, là, sous ses haillons et sous cette crasse, le battement d'un cœur, l'émotion d'une âme. Elle voulut savoir. Elle aurait voulu attendrir et aussi convaincre. Elle reprit donc. « Vous n'êtes pas une bête des bois. Vous êtes une créature comme les autres. Vous avez été une gentille petite fille, vous aussi. » « Oui, et maintenant je suis une vieille salope. Qu'est-ce que vous voulez? Quand j'étais une petite fille, ma mère ne m'a pas appris à aimer le travail. Elle était bien trop occupée à se saouler et à me donner des coups. Je vois encore mieux qu'elle. Je me saoule, comme elle, quand je peux, mais j'ai jamais fait de mal à personne. » « Mais quelle vie vous avez, ma pauvre Katsu, et par votre faute, puisque vous parlez comme vous le faites. » « Ah, ça irait encore si j'avais tous les jours le ventre plein. La pluie, le froid, tout ça m'est égal. « Allez, la faim, qu'est le plus dur !»« Un abri, c'est bon aussi. Vous auriez pu avoir un abri. Mais il vous faudrait avoir une autre manière de vivre. Vous vous conduisez mal. Vous faites de vilaines choses. » osa dire Hermine. « Bien se conduire, c'est bon pour celles qui ont tout ce qu'il leur faut. Qu'est-ce que ça peut faire, que j'en ai ou que j'en ai pas, de la conduite? Je leur prends pas leurs hommes aux autres. Olé, eux qui me prennent. » Tantôt avec l'un, tantôt avec les autres, cela ne vous répugne donc pas? Vous êtes la bête de somme de la première rencontre. » « Puisqu'ils aiment ça, » répondit cyniquement Katsu. Hermine se tut, comprit qu'il n'y avait pas à raisonner avec un être incomplet, se croyant sur la terre seulement pour la parcourir en animal stupide. Katsu restait là, avec une sorte de sourire ironique sur sa lèvre béante et baveuse. Elle balançait le corps et la tête comme une idiote, regardant ses mains sales, ses pieds chaussés de gros souliers d'homme. Elle avait aussi quelque chose à dire. « Mais vous non plus, madame Hermine, vous n'avez pas d'abri, puisque vous êtes là, sur la même paillasse que la pauvre Katsu. Vous savez ce qui vous arrivera. Vous n'êtes point méchante, et vous êtes avec des méchants. Je le sais bien, moi. sais tout à courir les chemins. On entend l'un, on entend l'autre, on comprend le reste. Croyez-moi, madame Hermine, vous serez comme moi un jour. Vous finirez comme moi. Je sais ce que je dis. » Hermine eut une révolte, se leva. « Plutôt mourir » pensa-t-elle. Elle regarda encore Katsu, se refusa à croire que c'était là le miroir de sa vie prochaine. Elle eut de la compatissance pour cet être resté dans les limbes de l'ignorance, et elle s'éloigna du refuge de Katsu après lui avoir souhaité meilleure chance. Chapitre 29. Katsu, en effet, connut la fin de ses maux. À quelque temps de là, au moment des labours de l'hiver, on la trouva morte, étendue sur le dos, dans le creux d'un sillon, les mains crispées, la face verte. Harassée par la maladie, elle avait marché comme elle avait pu vers l'hôpital. Là, on refusa de la prendre. Pas de lit. D'ailleurs, elle pourrait sortir guérie, mais non corrigée, et elle aurait volé la place d'un plus malade qu'elle. Katsu partit sans répondre un mot. Pas de lit. Elle aurait pourtant bien voulu s'étendre sur un drap frais, dans une chambre tiède. Elle avait connu ce repos une fois à l'infirmerie de la prison. On lui avait brûlé le dos et la poitrine avec des mèches. On lui avait fait boire du sirop et de la tisane. Et puis, au bout de quelques jours de bouillon et d'œufs, elle avait mangé à sa faim du pain et de la viande. Après cela, on l'avait renvoyée avec du linge propre et des souliers aux pieds. Cette fois-là, elle était partie sans regret, heureuse de retrouver sa grande route. Mais cette fois-ci, elle aurait bien voulu entrer à l'hospice, ne fût-ce qu'une heure. Elle était brûlante de fièvre dans l'air glacial. Puisqu'on ne voulait pas d'elle, autant rester où elle était. Elle se laissa choir au seuil de la porte, sur le pavé. Elle resta couchée devant la grille, inerte, n'entendant pas les paroles de ceux qui s'arrêtaient, se penchaient vers elle. « C'est Katsu. Elle a l'air malade. Elle est peut-être morte. Mais non, elle a bu. Comme Tréjou. Si on la recevait, elle en prendrait vite l'habitude. Il y a 5 ans, elle a eu la chance d'être soignée, guérie et nippée, ma foi. Et 2 jours après, elle était aussi pouilleuse qu'avant. Et tout le monde passe. Katsu, enfin, sort de sa torpeur, se lève, s'en va, disparaît au tournant de la route. Elle est dans les champs, c'est le soir, elle marche au hasard, trébuche dans la terre labourée, tombe et reste là. La dernière flamme qui vacillait encore en elle s'éteint. Personne n'est à ses côtés pour l'aider à franchir le seuil obscur de la mort. Sous le grand ciel illuminé de toutes ses étoiles, elle n'est plus qu'une chose informe qui va se confondre avec la terre et l'herbe et retourner à la grande inconscience de la nature. On raconta cela devant Hermine, qui se souvint de la prédiction de Katsu. « Vous serez comme moi, vous finirez comme moi. » Chapitre 30. Hermine se refusa à cette fin. « Je n'ai pas vécu comme Katsu. Je ne veux pas mourir comme Katsu, » se dit-elle. « Pourquoi donc mourrait-elle, après tout? Pour laisser la place libre à ce criminel qui s'était emparé du bien de ses parents et de son bien à elle, qui lui avait imposé son contact abject, le mensonge de l'amour et de la maternité, et qui attendait maintenant sa fin pour prendre définitivement possession de ses dépouilles? Il serait bien heureux et triomphant, ce François Jarry, s'il pouvait mettre la fille dans le même trou, sous la même pierre que son père et sa mère. Il pourrait frapper du pied la dalle où seraient écrits les noms des Gilquin et rentrer en riant dans le domaine. La maison serait à lui, et les meubles, et les terres, et toutes les bêtes aimées d'Hermine. Il épouserait sans doute la fille de cuisine qui avait pris la place de la maîtresse du logis. Toute la domesticité ferait à la noce le cortège de sa gaieté grossière. Et la petite Zélie, vêtue des vêtements de jeune fille d'Hermine, penserait à la stupide morte avec des yeux méchants et un sourire perfide. Non, la fille des Gilquins se refusait à être ainsi vaincue. C'était un samedi qu'elle avait appris la mort de Katsou. Elle décida qu'elle resterait encore là le dimanche, jour où tous ses mouvements seraient épiés et aperçus, et qu'elle s'enfuirait le lundi, quand tout le monde serait parti pour les champs. Où irait-elle? Elle irait tout droit à la ville. La route était longue, le froid était venu, et les chemins seraient mauvais. Tant pis, elle aurait l'énergie de faire la course tout d'une traite. Elle avait un peu d'argent dans une cachette que sa mère lui avait montrée et que François Jarry avait inutilement cherchée. Elle prendrait cet argent et la petite boîte où elle avait ses souvenirs, et pas autre chose. Si elle trouvait en route une charrette de paysans ou même une voiture de la ville, elle demanderait qu'on veuille bien lui abréger le temps de sa course et soulager sa fatigue. Elle arriverait donc là-bas, elle s'y voyait. Elle était déjà haletante d'avoir touché le but qu'elle s'était assigné. Que ferait-elle à la ville? Elle sonnerait à la porte de Maître Philippon, le notaire, celui qui avait toujours fait les affaires de son père et de sa mère, qui avait dressé son contrat de mariage avec Jarry. Elle se rappelait bien qu'à ce moment, il avait prévenu Madame Gilquin et elle-même, Hermine, sur le point de devenir Madame Jarry, qu'elle faisait peut-être une sottise en attribuant une part au nouveau venu, et qu'il vaudrait mieux attendre pour régler les affaires de meilleure façon. Mais Madame Gilquin lui avait affirmé qu'elle avait les meilleurs renseignements sur son futur gendre, que c'était un brave garçon qui assurerait la tranquillité d'Hermine et aussi la sienne, et qu'elles étaient bien heureuses toutes deux de l'avoir rencontré. La pauvre femme était affolée par la mort tragique de son mari. Elle voyait Hermine délaissée de tous, et elle voulait absolument lui donner un protecteur dans la vie. François Jarry se présentait bien, avait un masque de franchise solidement fixé sur la vilenie de son être. Maître Philippon avait fini par s'incliner, se disant qu'après tout, les deux femmes avaient probablement raison d'organiser leur vie de cette manière, et il les avait aidées à créer pour François Jarry un avoir qui lui était un don nécessaire de joyeux avènement. Pour Jarry, il était dans la place, c'était l'essentiel. Il verrait ensuite à mettre la main sur la part que les deux femmes avaient gardée par devers elles. Quand la révélation rapide du vrai François Jarry avait été faite à Madame Gilquin et à sa fille, elles tombèrent, la mère dans un état de confusion et de chagrin, la fille dans un état de stupeur, qui empêchèrent tout sursaut d'action en elle. Et leur homme d'affaires, s'il avait eu quelque avertissement de leur situation par le bruit public, n'en avait rien su par ses clientes, toutes deux effondrées dans l'angoisse et le mutisme. Il avait bien, un jour qu'il passait sur la route, fait arrêter son cabriolet à la porte de la ferme, et il avait demandé des nouvelles de ces dames, et aussi s'il pouvait être reçu par elles. Il lui avait été répondu par la servante maîtresse, qui, pas plus que François Jarry, n'aimait les visites des gens de loi, que précisément ces dames étaient parties pour la ville, et que certainement monsieur le notaire les rencontrerait sur leur retour. Monsieur le notaire n'avait pas insisté, et peut-être même n'avait-il pas eu le soupçon d'un mensonge. Il était retourné chez lui, n'avait rencontré personne, et n'avait plus pensé aux résultats négatifs de sa visite. Quand sa mère mourut, Hermine avait voulu aviser le notaire de cette mort, le jour même. Elle écrivit donc à M. Philippon, en même temps qu'à ses anciennes amies de pension. Et la petite Zélie, qui se montrait hypocritement empressée, avec la nuance d'émotion qui changea un instant les allures de tout le personnel de la ferme, fut chargée de mettre ses lettres à la poste. Hermine ne vit à l'enterrement, parmi les paysans du voisinage, aucune des personnes qu'elle avait prévenues, et elle ne reçut les jours qui suivirent aucune réponse à ses billets de faire part. Elle interrogea la petite Zélie, qui lui répondit sans broncher qu'elle avait bien mis à la boîte aux lettres tout ce qui lui avait été confié. Hermine dut se contenter de cette réponse, tout en voyant clairement le mensonge dans les yeux et sur les lèvres de l'enfant. Elle commença dès lors à soupçonner quelques manigances de Jarry, et se promit de prévenir plus sûrement le notaire, d'autant qu'il lui fallait régler les intérêts mis en mouvement par la succession de sa mère. La rencontre et la mort de Katsu ne firent que la confirmer dans cette résolution, qui avait un peu faibli pendant la période de calme vécue après l'enterrement de sa mère. Elle avait eu vaguement l'illusion que la vie pouvait être possible encore pour elle dans cette maison vide de ceux qui l'avaient aimée et protégée pendant son enfance et sa jeunesse. Cette illusion avait été de courte durée, et l'horreur de sa situation, qui lui avait été dévoilée pire que jamais par les paroles de la vagabonde, ranima en elle l'énergie nécessaire à son dessein. Elle ne se contenterait pas de voir M. Philippon. Elle ne rentrerait pas chez elle. Tous ses parents avaient disparu, et elle n'avait pas d'amis sur qui compter. Mais le notaire était un brave homme, de bons conseils, qui avait estimé ses parents, et qui lui avait toujours montré une paternelle affection. Certainement, M. Philippon ne l'abandonnerait pas, et il lui donnerait tous les conseils nécessaires. Il prendrait ses droits et son existence en main. Il lui fournirait tous les moyens de réduire et de vaincre le misérable François Jarry. La douce Hermine eut un sourire de petite fille victorieuse à cette idée de juste vengeance. Elle irait jusqu'au bout, divorcerait, ferait un procès. On mettrait les biens sous séquestre, on vendrait la maison et tous les pauvres animaux. Au moins, l'intrus serait expulsé avec la servante maîtresse, la petite Zélie et toute la séquelle des vauriens et des vauriennes qui avaient pris parti contre les anciens maîtres du logis. Tous ceux qui avaient payé en ingratitude et en cruauté la bonté et la protection qui s'étaient étendues sur leur existence. C'était décidé. Hermine partirait lundi. Chapitre 31. Le dimanche matin, Hermine, tout à sa résolution pour le lendemain, voulut vivre sa dernière journée d'une manière indifférente, en apparence, pour tous les yeux qui ne manquaient jamais de l'observer, mais avec tout le recueillement, toute la tendresse qui était en son esprit restée ingénue, en son âme toujours enfantine. Elle ne pouvait partir sans dire adieu à toute chose, à ce qui avait été sa maison, à ce qui avait été sa vie, la vie des siens. Elle dirait adieu aussi au pays, à ce pays qu'elle ne reverrait sans doute jamais, ou qu'elle ne reverrait que plus tard, quand elle serait bien vieille, que personne ne la reconnaîtrait plus, que tous ses persécuteurs seraient morts ou dispersés. Elle pourrait alors revenir, et cette idée du retour, un jour, dans bien longtemps, lui souriait malgré tout. Elle n'habiterait pas la pleine campagne, où elle ne serait pas en sûreté, où elle risquerait d'avoir peur, mais elle trouverait un logis au village, où elle vivrait ses jours jusqu'à la fin, en toute tranquillité. Au village, on n'est pas seul. On vit parmi un va-et-vient de gens, on échange des bonjours et des bonsoirs. Il y a des boutiques, pas beaucoup, mais enfin il y en a quelques-unes, la boucherie, la boulangerie, l'épicerie-mercerie. C'est très gai de voir les devantures, avec de la viande, du pain, des étoffes, des bonbons. Les commerçants sont sur leur seuil, on peut causer avec eux, écouter leurs doléances, les réjouir en leur achetant quelque chose. Et dans les autres maisons, sans boutique, il y a aussi du monde que l'on peut fréquenter. Le cordonnier, la couturière, des vieux paysans qui ne peuvent plus travailler, qui sont assis auprès de leurs vitres, le rideau relevé. L'été, les fenêtres sont ouvertes, on aperçoit les meubles, le lit, la table, la cheminée, tout le nécessaire de l'existence rassemblé dans une seule pièce, avec une petite cour ou un petit jardin derrière. Hermine choisirait, pour y demeurer, l'endroit le plus fréquenté, sur la place de l'église. Elle habiterait là une petite maison, une toute petite maison, faite d'un minuscule rez-de-chaussée. En tout cas, elle n'aurait, comme toutes les vieilles femmes du village, qu'une chambre, pour n'avoir pas de ménage compliqué à tenir. Une chambre pour dormir, pour faire sa cuisine, pour manger, une embrasure de fenêtre pour se tenir, pour coudre, pour lire, pour regarder, elle aussi, les passants à travers ses rideaux blancs. C'était tout ce qu'elle demanderait à la vie, avant de s'en aller reposer au cimetière où elle avait conduit son père et sa mère. Elle s'aperçut qu'elle rêvassait ainsi, une fois de plus, tout éveillée, et qu'elle arrangeait à sa guise la fin de son existence, sans savoir comment elle la vivrait. Elle se gronda pour cette maudite habitude de toujours vivre à une autre date que celle des jours présents. Qui savait ce qui se passerait d'ici là? Il y avait eu déjà, sans sortir de chez elle, tant d'imprévus dans sa destinée qu'il était bien vain de faire des projets alors qu'elle s'en allait, droit devant elle, sans savoir où elle allait se fixer. N'importe. Qu'elle s'en aille pour toujours ou qu'elle doive revenir, Hermine veut traverser le village pour lui dire adieu comme au reste, si elle doit le quitter pour jamais, pour lui dire au revoir et y choisir sa place si sa vieillesse doit lui demander un jour son asile. C'est dimanche, le jour est bien choisi pour faire cette promenade sans éveiller de soupçons. Des servantes de la ferme vont à la messe, Hermine ira aussi. Il y a longtemps que cela lui est arrivé, et François Jarry la regarde en ricanant quand elle paraît avec sa mante à capuchon et son paroissien. Elle subit le ricanement et s'en va d'un pas paisible sur le chemin où il y a déjà d'autres femmes, en mante noire, comme elle. Bientôt, elle s'aperçoit que l'effrontée petite Zélie l'accompagne à distance, s'arrêtant pour cueillir les dernières baies des buissons, puis courant en avant, ne perdant pas Hermine de vue. Et celle-ci pense que le lendemain, elle aura du mal à dépister cette espionne. Elle continue sa route en pensant à cela, en cherchant le meilleur moyen de s'enfuir sans éveiller l'attention de ses yeux rusés, de cette méchanceté aux aguets. Elle croit l'avoir trouvée. Chapitre 32. La journée de ce dimanche d'hiver s'annonçait belle. Il faisait froid. Le vent venant du nord avait chassé les nuages, laissé tout l'espace libre au soleil, qui rayonnait dans le ciel d'un bleu pâle et dur, et dorait la terre, les routes, les maisons éparses, illuminait la mer. Hermine voulut hâter le pas, toujours suivie de la petite Zélie. Mais rapidement elle s'essouffla, dut s'arrêter pour chercher sa respiration. Il lui vint une douleur intolérable au sommet de la poitrine, une douleur qui gagna l'épaule, le bras, le poignet, la main gauche, jusqu'à l'extrémité du petit doigt. Elle dut marcher plus lentement, absorbée par cette douleur, se tenant le bras gauche de la main droite, sous sa mante, dans la position d'un bras en écharpe. La petite Zélie la regarda curieusement ralentir le pas, fermer un instant les yeux et pâlir. Hermine crut qu'elle allait tomber. « Veux-tu me porter mon paroissien, Zélie ? » dit-elle d'une voix éteinte. La fillette s'approcha, prit le livre. Hermine dut s'appuyer sur l'épaule de l'enfant, qui ne dit mot, puis elle s'assit un instant sur le talus de la route. Ce qu'elle éprouvait était pour elle extraordinaire. Elle ne pouvait respirer dans cette fraîche et vive atmosphère qui l'assaillait de toutes parts. Elle éprouvait la sensation d'avoir la poitrine et la bouche pleines d'ouate. Elle étouffait. Et plus l'étouffement s'accroissait, plus sa douleur du côté gauche devenait cruelle et tenace, lui brûlait le cœur, le bras et la main, comme si toute cette partie de son corps se trouvait dans un brasier aux flammes sans cesse ravivées. Pendant un instant, elle crut qu'elle allait tomber, paralysée ou morte. Le visage tourné vers la fraîcheur du vent, elle se ranima enfin, et par un sursaut de volonté, se remit debout. « Vous êtes malade ?» dit Zélie. « Ce n'est rien, cela va passer. » Elle acheva le chemin, et cela parut passer, en effet. Elle arriva au village au moment où la cloche sonnait les coups de la messe. Il y avait quelques groupes sur la place, des femmes en mante noire, des hommes en chapeau rond, en courte blouse bleue, en veste de drap. Sous le porche de la petite église, une vieille mendiante et deux marchandes de pommes et de sucre d'orge. Hermine se rappela que ces sucres d'orge étaient ses délices lorsqu'elle était une toute petite fille et qu'elle venait là, donnant la main à sa mère. Elle était seule maintenant, et par la faute des autres. N'avait-elle pas essayé de faire sienne cet enfant ennemi qui était avec elle? Toute la vie d'Hermine aurait pu être changée par la rencontre d'une affection, d'un sentiment profond, d'un être doux et confiant. Si cette petite Zélie avait voulu, elle l'aurait traitée comme sa fille. Elle l'aurait amenée là en lui donnant la main. Elle la regarda d'un regard si singulier et pénétrant que la petite fille baissa les yeux. « Après tout, pensa Hermine, elle n'est pas responsable des méchancetés qu'on lui fait faire, ni même des mauvais instincts qui sont en elle. Elle m'a porté mon livre et m'a laissé m'appuyer sur son épaule quand j'ai cru défaillir. Toute complaisance doit être récompensée, et j'aime mieux lui laisser le souvenir de mon pardon plutôt que de ma rancune. » Elle prit pour quelques sous de sucre d'orge à la marchande et les donna à Zélie. « Tiens, pour ta peine, » dit-elle simplement. L'enfant mit en rougissant les friandises dans la poche de son tablier, puis releva vers Hermine des yeux où pouvait se lire sa pensée. « Tu veux m'acheter ?» disaient ses yeux. « Mais je prends tout de même les sucres d'orge. » Hermine répondit comme si la petite fille avait parlé à voix haute. « Tu te trompes. Je te donne les sucres d'orge pour rien, parce que cela me fait plaisir. Entrons. » Zélie rougit de nouveau. Hermine trempa ses doigts dans l'eau bénite, l'étendit à la fillette, et toutes deux allèrent s'asseoir parmi les mantes noires. Hermine, un peu délivrée de la douleur de sa poitrine et de son bras, et revenant à ses pensées, Zélie la regardant en dessous. Chapitre 33. Toutes deux se levèrent, s'agenouillèrent, se rassirent, selon les indications de la messe, pendant que le prêtre allait et venait devant l'autel, vêtu d'une vieille chasuble à demi dédorée, pareille à un dos de scarabée. Ce prêtre était un vieillard qui était depuis longtemps dans la paroisse. Il avait présidé à la première communion d'Hermine et à son mariage. Et la femme, blessée par la vie, regarda avec curiosité ce personnage, qui lui avait paru autrefois si solennel, muni d'un pouvoir extra-humain pour diriger les consciences, consoler les peines, sauver les âmes. Elle lui trouva une physionomie ordinaire, sans rien qui inspirât le respect et la confiance. Il expédia sa messe d'une voix monotone, avec des gestes d'habitude, ne laissait pas voir une émotion. « Alors, pourquoi serais-je émue ?» pensa Hermine. Il monta en chaire au milieu de l'office, dit aux paysans qu'il ne fallait pas boire, aux femmes qu'elles ne devaient pas être mauvaise langue, à tous qu'ils devaient se résigner aux maux de la terre pour être heureux ailleurs. Et Hermine s'amusa un instant à travers ses préoccupations d'un paradis où elle pourrait retrouver les gens qui étaient là, les hommes ivrognes, les femmes médisantes, confesser et communier à temps pour connaître les félicités éternelles. Le curé descendit de chaire et reprit sa messe où il l'avait laissée. Il n'avait pas prononcé un mot pour aller au cœur d'Hermine. Mais celle-ci, cherchant partout un espoir, pensa que ce brave homme, si simple qu'il fût, lui serait peut-être d'excellents conseils. Il pouvait avoir souffert de la vie, avoir vu souffrir sa mère, ses sœurs, se rappeler des crises de douleur. Ce qu'il n'avait pas su dire en chair, ou ce qu'il n'avait pas pensé à dire, il le dirait à Hermine si elle venait lui demander une parole de sagesse, de réconfort, de consolation. Elle décida que, malgré la présence de Zélie, elle irait lui demander un instant d'entretien après la messe, dans la sacristie, ou au confessionnal, s'il le préférait. « Ite missa est », dit enfin le prêtre, et tout le monde sortit, les hommes pour retourner au cabaret, les femmes pour échanger leurs propos d'habitude. Hermine resta, se dirigea vers la sacristie. « Attends-moi dans l'église !» dit-elle à Zélie d'un ton qui n'admettait pas de réplique. La petite fille eut pourtant un mouvement comme pour suivre Hermine. Elle se rappelait sans doute les ordres de François Jarry, mais tout de même elle n'osa pas. Elle ne parlerait pas de cet arrêt d'Hermine dans la sacristie, voilà tout. Et elle resta dans l'église, comme il lui avait été commandé. N'alla pas rejoindre les servantes de la ferme sur la place. Forcément, Hermine sortirait de la sacristie, et il n'y aurait plus qu'à rentrer à la maison. Elle n'allait pas rester toute la journée avec le curé, bien sûr. Chapitre 34. Monsieur le curé avait retiré Chassazuble et son aube lorsqu'Hermine entra. Il la reconnut après un instant d'hésitation. « Tiens, Madame Jarry ?» Mais l'autre, d'une voix ferme, « Hermine Gilquin, oui, vous vous rappelez, monsieur le curé ?»«
Oui, oui, je crois bien. J'ai bien connu défunt votre père, défunt votre mère. Et vous aussi, je vous ai connu. Mais il y a longtemps que je ne vous avais vu. Avez-vous été souffrante ?»«
Oui, assez souffrante, monsieur le curé. » « Je viens d'avoir des douleurs violentes. » Elle appuya sa main sur sa poitrine. « Et j'ai des douleurs de toutes sortes. »«
Moi aussi, je suis perclue de rhumatisme. Le presbytère est humide et je prends de l'âge. Mais il faut accepter ce que le bon Dieu nous envoie. Il y a du bon et du mauvais dans la vie. »
« J'ai eu en effet un peu de bon, » dit Hermine, « mais je n'ai plus que du mauvais. » Le curé eut la mine inquiète de ceux qui n'aiment pas la confidence des maux qu'ils ne peuvent ou ne veulent soulager.
« Quoi donc, mon enfant ?»«
Ma mère m'a mal mariée, et vous aussi, monsieur le curé, » dit Hermine en souriant un peu.
« Comment cela ?»«
Mon mari est un méchant, un mauvais homme, un impur, un débauché. »«
Oh, oh !»
Il boit, il me bat. Je dois à tout instant me sauver hors de chez moi. Oui, de chez moi, car vous savez que François Jarry n'avait rien lorsqu'il est venu chez ma mère.
En effet, c'est bien fâcheux tout ce que vous me racontez là, mon enfant. Bien fâcheux, bien fâcheux.
Très fâcheux, en effet. Que faut-il faire ?
Ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire de scandale, mon enfant. Vous savez que l'Église défend le divorce.
Alors, l'Église rendra-t-elle mon mari meilleur ?
Mais, mon enfant, avez-vous tout essayé ? Il faut le prendre par la douceur, par la tendresse.
Hermine eut un frisson de dégoût que le prêtre ne vit pas. Il continua.
« C'est à vous, mon enfant, de remettre ce pécheur dans le bon chemin. »«
Je vois que vous ne le connaissez pas, monsieur le curé. Il n'y a que la loi qui puisse me sauver. »«
Vous sauver, vous sauver.
Il faut sauver votre âme. Voulez-vous perdre votre âme en croyant vous sauver ?»
Hermine ne put pas obtenir ce qu'elle attendait. La simple parole, née d'une pitié humaine, pour un être qui demandait naïvement secours à un autre être revêtu d'autorité. Monsieur le curé promit d'aller voir Hermine dans la semaine.
« Je serai loin, » pensa Hermine.
« Oui, j'irai un de ces jours, si le temps le permet à mes vieilles jambes. Je parlerai à votre mari. Je vous remercie bien, monsieur le curé.
Mais il faut que je vous quitte, mon enfant. Je suis bien occupée aujourd'hui. C'est dimanche. Je vais avoir les vêpres. Et mon déjeuner va brûler. On va me gronder si je suis en retard.
Allez-vous-en vite, monsieur le curé. Je reviendrai.
C'est cela. Revenez me voir, mon enfant. Vous me direz vos fautes. Et vous pourrez communier dimanche. Vous reprendrez courage avec le bon Dieu pour supporter la vie.
Merci, monsieur le curé. Au revoir.
Au revoir, mon enfant.
Il fit un petit geste de bénédiction et s'en alla vers son déjeuner. Le presbytère, devant lequel passa Hermine, exhalait la bonne odeur du rôti des dimanches.
« Quelle faute pourrais-je confesser ? » songeait Hermine. « Je n'ai pas commis de faute. C'est François Jarry qui devrait venir se confesser. »
« Il se confessera au notaire, je l'espère bien. »
Elle reprit sa route, suivie de Zélie. Auparavant, comme elle se l'était promis, elle regarda les maisonnettes autour de l'église, se réjouit de voir les fenêtres aux rideaux blancs, les quelques boutiques. Elle songea que si elle pouvait revenir là un jour, elle y reviendrait.
Allons, en route, pour le grand voyage qui doit finir sur cette petite place.
Chapitre 35. Sortie du village, comme elle se sentait un peu mieux, Hermine prit un sentier, gravit un léger monticule d'où elle savait dominer la mer lointaine. Elle était venue là autrefois avec son père, qui tenait sa petite main frêle dans sa forte main et qui l'aidait à grimper sur la butte. Si elle était fatiguée, il l'enlevait vite dans ses bras avec un bon rire, il la tenait solidement contre lui, tournait, virait, lui montrait le grand espace, les côtes, les phares, les bateaux, lui disait des noms qu'elle avait retenus. Cette vision si brusquement apparue derrière cette motte de terre au bord du chemin, c'était une des grandes sensations de son enfance, la plus grande même. Il lui fallait, avant de partir, revoir la mer. Elle la revit, en effet. Le temps était clair, la côte se dessina nettement à sa vue. Elle se réjouit d'une belle plage où de légères vagues d'émeraude venaient broder le sable d'or de leur mousseline d'argent. C'était frais et délicieux. On eût dit que le monde venait d'éclore dans la lumière. Au loin, tant que la vue pouvait s'étendre, le grand mouvement de l'eau enflait la mer vers le ciel. Il y avait sur l'océan de grandes moires vertes et les ombres violettes de légers nuages qui s'effilochaient bientôt sous le vent dans l'espace bleuâtre. Partout, les vagues se formaient pour se défaire aussitôt, se brisant avec une légère écume étincelante. Un bateau à voile surgit, passa devant l'horizon en s'inclinant sous les injonctions impérieuses de la brise et de la houle. Mais il louvoyait, allait son chemin, et Hermine se promit de partir avec lui et de connaître, comme lui, l'arrivée au port. Cette idée enthousiasma son âme sensible. Elle eut la fierté de la décision de départ qu'elle avait prise, et elle faillit parler à Zélie, lui montrer la beauté de cette nature harmonieuse, lui faire honte de la vilenie humaine. Peut-être y avait-il encore quelque chose de bon en cet enfant perverti, et pourrait-elle faire jaillir d'elle un bon sentiment, comme l'eau d'une source d'un sol qui paraît aride? Elle s'appuya de nouveau sur l'épaule de Zélie et ouvrit la bouche pour parler. Mais elle s'arrêta. Une imprudence pouvait la perdre, la rejeter à l'esclavage qu'elle voulait fuir. « Nous allons retourner chez nous, » dit-elle paisiblement. Un dernier regard à la mer, si fraîche et si joyeuse, au bateau, si allègre et si habile, et Hermine s'en va vers la maison paternelle de son jeune âge, devenue la prison de son existence de femme. Chapitre 36. Quand Hermine et la petite Zélie arrivèrent en vue de la ferme, il y avait un groupe devant le portail, des servantes, des journaliers, et parmi eux François Jarry.
Ces gens paraissaient assez animés, causaient et gesticulaient en regardant la route du côté du village. Ils attendaient Hermine, certainement, car aussitôt qu'ils virent sa mante, ils se calmèrent, comme si les chuchotements succédaient aux interrogations et aux débats, comme si le silence succédait aux chuchotements. Peu à peu, ils se dispersèrent. Celle qu'ils attendaient, et qu'ils s'inquiétaient probablement de ne pas voir reparaître, revenait prendre sa place de victime. Tout était donc pour le mieux, et il n'y avait plus rien à regarder sur la route. Chacun s'en fut à ses occupations, qui étaient, à cette heure, presque midi, les derniers préparatifs du déjeuner. La vivacité de gestes de tout à l'heure avait disparu, et les gens semblaient des désœuvrés, n'ayant plus rien à penser. Cette différence d'attitude n'échappa pas à Hermine. Pendant que la petite Zélie allait vers la cuisine, elle monta à sa chambre, déposer son livre de messe et ses vêtements de sortie, entr'ouvrit doucement sa fenêtre, prêta l'oreille aux voix qui pouvaient venir du rez-de-chaussée. Elle entendit bien les voix, mais ne put distinguer les paroles, la voix pressée de Zélie, désireuse de plaire, la voix sourde et bourgonnante de François Jarry, se renseignant sans doute et morigénant la fillette. Celle-ci, à n'en pas douter, racontait les incidents de la route, comment Hermine avait été souffrante, avait dû s'arrêter pour retrouver sa respiration et achever sa course. Peut-être disait-elle aussi au maître comment Hermine l'avait laissée seule dans l'église pour aller converser avec le curé dans la sacristie. Car elle entendit la voix de François Jarry s'élever et s'encolérer. « Je t'avais dit ! Je t'avais dit !» Elle n'en comprit pas davantage. La porte de la cuisine, restée ouverte, fut fermée violemment, et ce ne fut qu'un grognement sourd, le bruit d'une gifle et des pleurs qui vinrent jusqu'à Hermine. « Cette Zélie !» pensa Hermine. « Elle n'avait qu'à se taire !» Elle est sotte. Mais après tout, cela prouve que tout n'est pas encore gâté en elle, puisqu'elle dit la vérité au risque d'une gifle. Je suis étonnée que cette petite fille ait mal tourné. Elle a une jolie figure, des beaux yeux, mais c'est un masque trompeur, puisque la méchanceté habite déjà cette âme toute neuve. La méchanceté, c'est peut-être seulement la peur, et c'est la misère qui a rendu cette petite fille peureuse. Quoi qu'il en soit, j'ai bien fait de ne pas me fier à elle. Elle m'aurait vendu. Mais je puis toujours, sans rien lui dire de mes projets, lui parler, lui faire honte de sa conduite avec moi. Ce sera toujours un peu de bonne semence pour plus tard. Elle descendit. Tout le monde était attablé, et il n'y avait qu'une place vide parmi les servantes. Hermine s'y assit fièrement. Chapitre 37. Les conversations qui s'étaient arrêtées un instant à son entrée recommencèrent. Conversations paysannes, avec des rudesses, des éclats de rire, des propos madrés et gouailleurs. François Jarry, cette fois, ne dit rien à sa femme, se contenta de la transpercer de temps à autre de regards mauvais. Ces regards-là, Hermine, si courageuse qu'elle fût, ne savait pas les supporter. Elle baissait la tête, elle sentait son dos se rétrécir et le souffle lui manquait. Elle n'avait jamais vu à personne des yeux pareils, aussi chargés de haine et de cruauté. C'était de l'acier bleui que cet homme avait dans les prunelles, et lorsqu'il dardait cet acier dans les regards innocents d'Hermine, celle-ci avait la sensation de coups de couteau qui entraient dans ses yeux, à elle. Sûrement, il y avait le désir et la volonté du mal chez le bandit qui s'était embusqué dans la ferme des Gilquins. Il y avait la froide résolution de tuer, puis de dépouiller sa victime. Hermine, qui avait subi les terribles coups de poing et coups de pied de cette brute, frappant un jour sur elle avec une fureur inassouvie jusqu'à la laisser sur place, Hermine qui avait dû ce jour-là se traîner au dehors comme elle avait pu, geignante et sanglante, s'attendait toujours à voir cet ennemi effrayant se lever de table, bondir sur elle, la terrasser et l'achever. Elle avait connu l'assaut meurtrier de cette bête féroce, et elle s'étonnait qu'elle n'eût pas encore achevé de dépecer sa proie. Se rappelant tout cela, elle comprit, avec une pitié accrue, la frayeur qui devait être celle de la petite Zélie. Et même elle frissonna en songeant à ce qu'il adviendrait de l'enfant lorsqu'on s'apercevrait de l'évasion de la prisonnière. Zélie n'était-elle pas sa gardienne? Et ne serait-elle pas rendue responsable de ce départ? Hermine ne pouvait tout de même tarder davantage, sous peine de succomber elle-même. Il arriverait ce qu'il arriverait. Si la petite Zélie, plus tard, se souvenait de ce temps de sa vie, elle reconnaîtrait qu'Hermine ne pouvait agir autrement qu'elle n'avait fait, et elle garderait d'elle une image de bonté et de malheur. Hermine regarda Zélie, placée en face d'elle, à l'autre bout de la table. Mais la petite fille ne la regarda pas, le front penché vers son assiette. Elle avait les yeux rouges, la gorge encore gonflée de sanglots. Elle avait été injuriée et battue pour avoir laissé Hermine se confier à monsieur le curé sans assister à l'entretien. Il serait difficile le lendemain de tromper la surveillance de l'enfant terrorisé. Mais Hermine eut alors, de nouveau, la pensée qu'elle avait eue en route. Elle emmènerait Pyram avec elle, et si Zélie la suivait, elle la laisserait venir assez loin pour empêcher toute poursuite, puis lui ordonnerait de rentrer à la ferme, la menaçant de la bête dévouée qui obéissait à son moindre signe. Devant les yeux et les crocs du chien, la petite fille se sauverait, viendrait prévenir François Jarry, mais trop tard. Chapitre 38. Ce point réglé dans son esprit, Hermine oublia tout ce qui l'entourait. Ainsi que cela lui arrivait sans cesse, de même qu'elle partait à l'aventure sur les houles de l'avenir, elle se réfugia dans les bonnes rades du passé. Elle ne voyait plus les gens qui étaient attablés auprès d'elle. Elle se reportait à quelques années en arrière, alors que les réunions pareilles à celle-ci, dans la même salle, à la même table, ne s'accomplissaient pas comme de grossières mangeailles dans une atmosphère de haine, parmi les propos d'une domesticité rampante devant un maître. Hermine évoquait l'ancien maître, son père, président lui aussi, deux fois par jour, les repas de ses serviteurs. Il était là, Hermine le revoyait à travers la brume du temps. Il se tenait avec simplicité au milieu de tous, tranquille, souriant, la face rasée, sauf de petits favoris gris régulièrement dessinés sur ses joues, des boucles d'or aux oreilles. Il servait la soupe, découpait la viande, donnait à chacun sa part, avait l'œil à tout, ne laissait manquer de rien les nouveaux venus et les timides. Aucune gêne, d'ailleurs, en sa présence. Pierre Gilquin était un homme juste, chez lequel s'était formée d'elle-même l'idée de partager son bien-être avec ceux qui le produisaient. Le père d'Hermine était paternel avec tous. Madame Gilquin, d'un caractère plus atténué, tranquille et fidèle collaboratrice de son mari, le secondait sans cesse, attentive à toutes les intentions de ses paroles, de ses gestes, de sa physionomie. Hermine, quand elle vint se fixer au logis, après ses années de pensionnat, était la servante des serviteurs, servante empressée et gracieuse, naturellement encline à donner à ceux qui l'entouraient le bonheur d'exister, qui ravissait son être. Elle avait une nature aimante, émue par toute chose, fraternelle à tous. C'était une joie pour elle de voir vivre et d'aider à vivre. Aussi, ces repas de la ferme dans l'immense cuisine étaient-ils pour la jeune fille comme des fêtes de la nature, sans cesse recommencées et toujours nouvelles. C'était elle qui mettait le couvert, qui disposait le pain et le vin, qui veillait à la blancheur de la nappe de grosse toile étendue sur la table de chêne. Elle avait voulu ce luxe. Elle se réjouissait de voir entrer les ouvriers de la terre au visage hâlé, rougie et brunie par l'air des champs, les bergères et les filles d'étable. Tous et toutes, en ce temps-là, lui étaient reconnaissants de cette belle nappe, blanche comme une nappe de communion, de ses verres brillants, de ses fleurs qu'elle plaçait au milieu de la table, de l'air de fête qu'avait toujours le repas. Pas un et pas une n'aurait manqué, avant d'entrer, de se laver les mains à l'eau fraîche de la fontaine, dont on entendait le murmure dans la cour, et le « Bonjour, mademoiselle Hermine !» dont on la saluait particulièrement, voulait dire ce qui était en eux de camaraderie et de remerciement pour cette charmante jeune fille, tout amour pour ce qui l'entourait. Il pouvait y avoir, il y avait certainement, de mauvais caractères, des méchants, des violents, parmi ces assemblées de paysans. Quelle réunion peut être indemne des tares habituelles? Il y avait aussi des gouailleurs qui se moquaient lorsque les gilquins ne pouvaient les entendre. Mais l'autorité du maître de la ferme était grande, et la bonne grâce d'Hermine en imposait tout autant. Oui, c'était de belles fêtes, à cette époque, à jamais enfouies dans les temps révolus. Et c'était des fêtes de toutes les saisons, de tous les jours. L'hiver, comme l'été, la joie était la même. L'été, il n'y avait pas de déjeuner avec tout le personnel de la ferme, parti au champ dès l'aube pour ne rentrer qu'au crépuscule. Le soir, il y avait deux tables, pour tous les moissonneurs, puis, plus tard, pour toutes les faneuses. Et Hermine présidait une de ces tables, celle des ouvriers et des ouvrières de passage, qui auraient bien voulu rester leur vie entière avec elle. On ouvrait les fenêtres, et le parfum enivrant de la campagne chauffée par le soleil entrait dans la salle, apportant, confondu, les odeurs de la terre et des arbres, des fleurs et des fruits, et l'odeur des herbes marines quand le vent du sud-ouest traversait l'espace. L'hiver, les fenêtres fermées, les visages étaient éclairés par la lumière dorée des lampes, par la haute flamme rougeoyante qui dansait et se tordait dans l'âtre comme le démon du foyer. Les figures étaient réjouies par la chaleur, par la bonne nourriture, par la sécurité du logis autour duquel se battaient les mauvais génies de la dure saison, les vents glacés, les pluies cinglantes, les lourdes neiges. Hermine songea tout à coup que parmi ces faces réjouies du temps passé, il y avait eu sans doute celle du petit Jean, qu'elle essayait en vain de se rappeler, du petit Jean qui était entré avec les autres après s'être lavé les mains à la fontaine comme les autres, et qui avait dû dire lui aussi un « Bonjour, mademoiselle Hermine », où il avait mis tout son cœur, tout l'espoir insensé et tout le désespoir certain de sa pauvre et naïve existence. Elle eut un tressaillement en évoquant cette figure du petit Jean parmi les figures d'autrefois. Elle s'acharnait à le voir, et elle le voyait, mais comme une ombre presque indistincte dont elle ne pouvait fixer le visage ni entendre la voix. Elle s'obstinait, croyait retrouver une silhouette, une expression dans sa mémoire. Et puis, c'était fini. Tout ce qu'elle avait cru évoquer de Jean disparaissait comme une vapeur. Il n'y était plus. Et beaucoup des autres avaient, comme lui, disparu. Les meilleurs étaient partis. Il ne restait que les mauvais. Et maintenant, autour de la table, sans nappe blanche, tachée de graisse et de vin, la réunion était une réunion de cabaret, avec ses propos cyniques et ses voix querelleuses. Chapitre 39. Pendant que le dégoût du présent et la douceur du passé se mélangeaient ainsi dans l'esprit d'Hermine, comme une eau boueuse tout à coup déversée dans une source claire, on se leva de table. Et Hermine, la dernière, se leva aussi. Des hommes et des femmes s'en retournaient au champ ou au village, d'autres allaient dormir. Or la cuisine, emplie du bavardage et du bruit des laveuses de vaisselle, le silence pacifiant des dimanches allait régner sur la maison des Gilquins. Hermine remonta d'abord à sa chambre. Comme elle tournait pour prendre l'escalier, un angle obscur du couloir, une petite ombre bougea dans cette obscurité, et une voix oppressée et tremblante murmura tout près d'elle. « Il m'a battue, parce que je ne voulais rien dire !» La femme prudente qu'était devenue Hermine comprit qu'il n'y avait pas à manifester de surprise ni à engager de conversation avec cette petite Zélie qui osait un tel acte, à se faire assommer sans délai si elle avait été surprise par François Jarry. Elle passa donc comme si elle n'avait pas entendu, et ses yeux seuls remercièrent l'ombre chétive. En haut, elle s'enfouit pendant quelques instants dans la vieille bergère de velours rouge fané où sa mère avait passé les derniers mois de sa vie, et elle réfléchit à ce qui pouvait bien se passer autour d'elle. Elle se méfiait bien, elle se méfiait toujours. Elle n'avait payé que trop cher sa naïveté d'ignorante de la vie, puisqu'elle l'avait peut-être payée de sa vie entière. À présent, avec l'idée de sauvegarder ce qui pouvait lui rester de jours tranquilles, elle exagérait peut-être ses craintes et ses précautions. Mais il était certain qu'un nouveau péril, qu'elle ne pouvait encore définir, la menaçait. Que pouvait-on bien tramer encore contre elle? Quelle cruauté allait de nouveau l'assaillir? Ses projets de départ avaient-ils été éventés, devinés? Une volonté brutale allait-elle s'opposer à la sienne? C'était impossible. Hermine n'avait dit son intention de partir à personne. Tout son plan était dans sa tête, et François Jarry n'était pas un devin, ne pouvait pas soupçonner qu'elle avait l'intention, le lendemain, d'aller trouver M. Philippon, le notaire, pour se libérer d'un martyr qui finirait par avoir raison d'elle. Peut-être Zélie avait-elle été contrainte de dire qu'Hermine avait eu un entretien avec M. le curé, et François Jarry était capable d'être parti se renseigner au presbytère, avec toute l'adresse qui était en son cerveau pervers. C'était probablement cette visite d'Hermine au prêtre qui avait valu à Zélie des menaces et des coups, et si elle avait fini par avouer, du moins, elle avait résisté aux premières injonctions brutales. Qu'il y eût cela ou autre chose, et si anxieuse et si effrayée qu'elle pût être, Hermine éprouvait une certaine satisfaction du revirement qui paraissait s'opérer. Elle ne savait comment, dans l'esprit de Zélie. Le fond de cette petite nature n'était-il donc pas tout à fait gâté? Un combat se livrait-il dans cette conscience qui paraissait inexistante? La flamme du devoir s'était-elle allumée? Commençait-elle à éclairer les ténèbres de cette intelligence? Alors, c'est que tout n'était pas absolument mauvais dans l'humanité. Pour qu'une petite fille de ce genre, qui avait certainement peur, comme Hermine, des yeux d'acier et des regards en coups de couteau de François Jarry et de ses poings effrayants, capable d'assommer un bœuf, fût capable d'une audace aussi grande. C'est peut-être aussi, pensa Hermine, parce qu'il l'a battue et qu'elle croit se venger de lui. Le malheur avait ainsi fait une clairvoyante de cette Hermine autrefois ingénue. Elle se leva de sa bergère, qui aurait bientôt changé sa songerie en sommeil, pour achever la promenade à travers son passé qu'elle avait décidé la veille dans son esprit. Cette calme journée de dimanche lui paraissait propice à son dessein. Elle descendit pour parcourir ce qui avait été son chez-elle, pour se séparer de tout ce qu'elle avait connu et aimé